Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la France va-t-elle devenir inassurable ? Face à la multiplication des catastrophes climatiques, les incendies l'été, les inondations dans le Pas-de-Calais ou les longs épisodes de sécheresse, la facture explose côté assureur, ce qui pose la question de la viabilité de notre système. Marc Engrand couvre les sujets liés aux banques, aux assurances et aux marchés financiers pour Le Monde. Il nous explique. Catastrophe climatique, la France sera-t-elle bientôt inassurable ? Un épisode de Marion Botorel, réalisation Florentin Baume. Une commune de plus de 50 000 habitants et son agglomération sans assurance. C'est la situation dans laquelle se trouvent les Sables d'Olonne en Vendée depuis le 1er janvier dernier. Les assureurs ont tout simplement renoncé face à la succession de catastrophes naturelles et à l'explosion des coûts qu'elles provoquent. Rien qu'en août dernier, la tempête Patricia a occasionné plus de 300 000 euros de réparation dans cette station balnéaire, qui a ensuite connu la dépression Céline ou dernièrement la tempête Louis. Une situation qui n'est pas sans conséquences, comme l'explique Yannick Moreau, également président de l'Association nationale des élus des littoraux.
Pour résumer, nous sommes dans une période assez critique où la ville ne dispose pas d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance pour les dommages aux biens. Et donc nous croisons les doigts pour que dans cette période où nous n'avons pas d'assurance, il n'y ait pas un événement météorologique exceptionnel et de gros dégâts sur le littoral des Sables d'Olonne, parce que si c'était le cas, nous devrions rembourser nous-mêmes puisque nous nous auto-assurons tant que nous n'avons pas d'assurance. Et encore une fois, le challenge, c'est non seulement l'assurabilité des collectivités et des biens publics, mais c'est aussi la culture du risque et l'adaptation de la vie sur le littoral français à cette croissance du risque, à cette augmentation du risque avec le changement climatique.
Yannick Moreau espère trouver un arrangement avec un nouvel assureur d'ici peu. Mais même quand les communes sont assurées, l'indemnisation tarde parfois à arriver face à la multiplication des catastrophes. Par trois fois ces quatre derniers mois, les habitants de centaines de communes du Pas-de-Calais ont par exemple été touchés par des inondations d'ampleur. Écoutez le président de la région Xavier Bertrand, invité sur France Info le 28 février dernier.
On parle des sinistres depuis le mois de novembre. Il y a des particuliers qui ne sont toujours pas indemnisés. Deuxième sujet sur lequel j'ai interpellé le Premier ministre, c'est que vous avez aujourd'hui des gens, ils ne pourront pas retourner chez eux. J'ai demandé à ce qu'il y ait des permanences sur le terrain pour qu'on explique concrètement l'État, comment se fera l'indemnisation, dans quelles conditions.
Bref, entre refus d'assurer certaines zones et délais d'indemnisation trop longs, la question de la viabilité de notre système d'assurance est d'ores et déjà sur la table. Bonjour Marc.
Bonjour Margot.
Alors, on vient d'évoquer certaines des catastrophes naturelles qu'a connues la France ces derniers mois, notamment dans le Pas-de-Calais. J'imagine qu'il est trop tôt pour connaître les montants d'indemnisation que les assureurs devront débourser pour cette région. Mais avant même ces inondations, Marc, la facture était déjà en hausse ces dernières années, c'est ça ?
Oui, c'est un fait. Les assureurs constatent très régulièrement une augmentation des dégâts liés aux catastrophes naturelles et au réchauffement climatique. De ce point de vue-là, l'année 2022 a été vraiment exceptionnel, avec plus de 10 milliards d'euros de dégâts à couvrir. C'est le plus haut montant enregistré depuis plus de 20 ans, parce que en 2022, on l'a peut-être déjà oublié, mais il y a eu de très gros épisodes de grêle, des sécheresses exceptionnelles, des incendies de forêt. C'était la pire année depuis 1999, celle des grosses tempêtes de fin d'année qui avaient balayé toute la moitié nord de la France. Et donc, là, en moyenne, la facture climatique, elle s'élevait à 3,5 milliards d'euros entre 2016 et 2021, c'est 1,5 milliard de plus que sur la période 1990-2009.
Donc la facture augmente et ça ne va pas aller en s'améliorant. Le sixième rapport du GIEC qui a été publié début 2023 prévoit une multiplication et une intensification des événements extrêmes à l'avenir. Et ça, c'est un défi pour notre système actuel d'assurance.
Oui, bien sûr, parce que la France a un système particulier, celui du régime des catastrophes naturelles. On appelle ça le CatNat, qui a été créé en 1982. Ce régime, il a longtemps permis de couvrir les dégâts exceptionnels liés aux catastrophes naturelles. Mais il touche ses limites avec l'augmentation régulière et forte des coûts liés à ces catastrophes. Et donc, il a fallu décider de le conforter en 2023 pour assurer sa pérennité, qui est un élément essentiel de la capacité du système d'assurance français dans sa globalité à couvrir ces événements.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment il fonctionne, ce système d'indemnisation des catastrophes naturelles ?
Oui, on peut comparer ça à une fusée à trois étages. Tous les assurés, tous les ménages français, qui soient concernés ou pas par les catastrophes naturelles ou l'exposition au risque, souscrivent dans le cadre de leur contrat d'assurance au régime des catastrophes naturelles, au régime CatNat. Donc c'est une petite partie de leur cotisation d'assurance habitation et d'assurance automobile qui va alimenter un fonds. Ensuite, quand une catastrophe survient, il y a les polices d'assurance classiques, habitation ou auto, qui jouent. Et puis, s'il y a besoin, on fait appel au régime CatNat. Quand il y a déclaration de catastrophe naturelle sur les communes concernées, le régime CatNat couvre les dommages. Et puis, quand il y a vraiment urgence et que même le régime CatNat ne suffit plus, là, l'État, qui est garant de ce régime, peut mettre la main à la poche. C'est très exceptionnel, ça n'est pas arrivé depuis la création du régime.
Et tu nous l'as dit, Marc, ce système que tu décris, il fonctionnait plutôt bien jusqu'à l'intensification des catastrophes naturelles.
Oui, ce régime, il fait vraiment l'unanimité chez les politiques et chez les assureurs. Et même à l'étranger, il y a certains pays qui aimeraient bien faire la même chose, mais qui ne l'ont toujours pas fait. C'est vraiment une exception mondiale, le régime CatNat français. Ça a très bien fonctionné, on le disait, pendant quasiment 40 ans. Et puis, depuis 2015, en gros, il a été structurellement déficitaire parce qu'il puise dans ses réserves. Les réserves qui ont été constituées sur les décennies précédentes, il a puisé petit à petit tellement dans ses réserves qu'il risquait d'arriver au bout. Et donc, il lui fallait trouver des solutions pour reconstituer ses réserves progressivement.
Donc, si je te suis bien, ça veut dire que notre système, il était déjà à bout de souffle ces dernières années, alors qu'on sait que les catastrophes naturelles vont encore se démultiplier.
Oui, il n'y avait pas de risque que les catastrophes naturelles ne soient pas couvertes à court terme. Par contre, on savait, vu l'évolution des réserves du régime et l'évolution des catastrophes naturelles, que le régime n'était plus tenable sur le moyen ou sur le long terme. Donc, il a fallu prendre des décisions. C'est ce qu'a fait le gouvernement toute fin décembre 2023, en annonçant un relèvement des cotisations donc payées par l'ensemble des assurés. Les taux de cotisation, donc la part de votre cotisation assurance habitation et celle de votre cotisation assurance auto, si vous avez une auto assurée, elle a augmenté pour augmenter les ressources du régime catastrophe naturelle et lui permettre, si tout va bien, de reconstituer petit à petit ses réserves.
On parle d'une augmentation de combien en moyenne ?
Les chiffres sont pas tout à fait fixés, mais le taux de cotisation, on le connaît, il va passer par exemple de 12 à 20% de la cotisation multirisque habitation au 1er janvier 2025 et de 6 à 9 pour les contrats d'assurance automobile. Et ça, on estime que ça va représenter un surcoût de 25 à 35 euros par ménage, selon évidemment la valeur des biens assurés. Donc, c'est pas rien, évidemment, pour un ménage. C'est jugé supportable. Et surtout, ça permet au régime CatNat de reconstituer ses réserves.
Et une fois ses réserves reconstituées, ce régime, il pourrait redevenir viable à plus long terme ?
Non, il gagne du temps, mais compte tenu de toutes les projections climatiques et des assureurs sur l'évolution de la fréquence des catastrophes naturelles et sur leurs coûts, on sait bien que à long terme, cette augmentation des cotisations, elle ne suffira pas et qu'il faudra reconsidérer peut-être soit le niveau de cotisation, soit le fonctionnement du régime dans 10 ou 15 ans peut-être.
Alors Marc, à ce stade de l'épisode, je te propose qu'on dézoome un peu parce qu'en fait, ce problème d'assurance, il est mondial. Les projections ne cessent de démontrer que les catastrophes climatiques vont augmenter en nombre, mais aussi en intensité sur toute la planète.
Oui, ce qu'on appelle une année exceptionnelle en termes de catastrophes naturelles, bah malheureusement, c'est de moins en moins exceptionnel parce que les catastrophes naturelles, elles deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus importantes en intensité et leurs coûts augmentent très vite et très régulièrement. On peut citer des prévisions, des estimations qui font référence, c'est celle de Swiss Re, qui est un très grand groupe suisse de réassurance. La réassurance, c'est l'assurance des assureurs. Hein. Les assureurs répartissent les risques qu'ils couvrent. Et Swiss Re, il estime que un coût de 100 milliards de dollars, une à deux fois maximum, tous les 20 ans, ce qui est la fréquence historique de long terme des catastrophes naturelles, eh ben en fait cette référence-là elle n'est plus valable puisque ce seuil des 100 milliards de dollars liés aux catastrophes naturelles, il a été franchi 7 fois sur les 8 dernières années.
Et donc, on a déjà parlé de la France, mais comment les assureurs ailleurs dans le monde vivent cette situation, cette augmentation des coûts?
Alors, ça dépend évidemment des pays, hein, des systèmes économiques. On l'a dit, en France, on a un système qui fonctionne plutôt bien grâce au régime des catastrophes naturelles, qui est très spécifique. Ailleurs dans le monde, la facture, elle touche aussi, et ça, c'est une évolution liée au réchauffement climatique, bien sûr, elle touche des zones qui, avant, n'étaient pas ou très rarement concernées par les catastrophes naturelles, qui sont des zones denses, peuplées, et où, évidemment, une catastrophe naturelle a un coût bien plus élevé que si elle touche une zone moins urbanisée et, accessoirement, avec une population moins riche.
Tu peux nous donner un exemple ?
Évidemment, un cyclone aux Philippines, très prosaïquement, ça coûte moins cher aux assureurs qu'un cyclone en Floride ou qu'un incendie géant en Californie, parce que, un, les Américains sont plus assurés que les Philippins, et deux, parce que une maison à reconstruire aux États-Unis, eh ben, ça coûte plus cher qu'une maison à reconstruire aux Philippines.
Et ça commence à avoir des conséquences aux États-Unis, un peu comme au Sable d'Olonne. Il y a des États où on a du mal à trouver des assurances.
Voilà, on l'a observé en 2022-2023. En Californie, après les séries de méga-incendies, en Floride, avec l'augmentation de la fréquence des cyclones, eh ben, il y a des assureurs qui se retirent de ces marchés, de ces États, en disant « moi, je ne couvre plus ce type de risque parce que ça me coûte trop cher ».
Donc là, on parle de cyclones, d'incendies, de grandes catastrophes naturelles. Mais ce qu'on observe, c'est que la plus grande crainte des assureurs, en fait, Marc, elle ne réside pas là, mais plutôt dans les périls secondaires. De quoi s'agit-il ?
Voilà, c'est pas forcément des catastrophes d'une ampleur très exceptionnelle. C'est plutôt une multiplication d'événements de moyenne intensité, type orage violent, orage de grêle, comme on l'a vu en France en 2022, incendies de forêt qui se répètent tous les ans et plus tous les 5 ans, 10 ans ou 15 ans, comme c'était le cas dans les décennies précédentes. Des inondations localisées qui se répètent, on l'a vu évidemment dans le Pas-de-Calais ces derniers mois.
On est blasé, désabusé, on nettoie et rebelote, on recommence. Non, il y en a marre.
Voilà, tous ces événements d'intensité faible ou moyenne, mais qui se répètent beaucoup plus qu'avant, ça préoccupe évidemment les assureurs parce que ça remet en cause l'équilibre du système d'assurance.
Ok, donc ça c'est pour les périls secondaires comme les fameuses inondations dans le Pas-de-Calais dont on parle depuis le début de ce podcast. Et puis il y a une dernière cause qui explique la flambée de la facture pour les assureurs. C'est ce qu'on appelle les retraits gonflements d'argile. Tu peux nous expliquer ?
Oui, bien sûr, c'est les RGA. Tous les assureurs connaissent ça trop bien. C'est le fait qu'une maison construite sur un sol plus ou moins argileux, elle risque de bouger en fonction de la sécheresse et de l'humidité et des variations d'humidité dans le sol sur lequel elle est construite, parce que les argiles se gonflent quand il pleut et se rétractent quand ça sèche. Et évidemment, quand il y a multiplication des sécheresses, ces mouvements-là, ils s'accentuent. Et donc, ça fait bouger les fondations des maisons. Et ça peut, dans un certain nombre de cas, provoquer des fissures dans les murs et puis compromettre l'habitabilité du bâtiment. Et ça, c'est des coûts énorme de rénovation et d'assurance. Et puis surtout, ce risque-là, il est en train de s'étendre progressivement sur le territoire français. Il concernait au départ quelques régions très localisées dans le sud-ouest, dans le centre, dans le Limousin. Et puis aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 10 millions de maisons qui sont exposées à ce risque de retrait gonflement argile. C'est une maison sur deux dans l'Hexagone. Mais s'il y a 10 millions de maisons concernées sur le long terme, ça représente potentiellement des centaines de milliards d'euros de coûts à couvrir. Et ça, le système ne peut pas l'assumer en l'état actuel.
Oui, et là, il faut rappeler que le système d'assurance, il est basé sur la notion d'aléa. Donc, si de plus en plus de gens sont touchés, tu parles d'une maison sur deux, ce système ne peut plus absorber les frais.
Voilà, là, on revient aux fondamentaux de l'assurance. L'assurance, c'est que tout le monde paye une prime pour couvrir un risque qui, évidemment, ne concernera pas tout le monde. Typiquement, quand je souscris une assurance contre l'incendie de ma maison, le risque que ma maison brûle, il n'est pas égal à 100%. Il y a une toute petite partie des maisons qui vont brûler. Et donc, la masse des cotisations permet de couvrir les coûts liés à ces incendies. Le problème, c'est que si les risques touchent de plus en plus d'assurés, eh bien, il n'y a plus cette notion de mutualisation du risque et d'aléa. Comme le disent les assureurs, s'il y a un risque est sûr, ce n'est plus un risque. Donc, on ne peut pas le couvrir.
Ok Marc, tout ce qu'on vient de dire n'est peut-être pas très rassurant. Je te propose de nous pencher maintenant sur les solutions qu'on pourrait apporter à cette crise. Déjà, est-ce qu'il y en a et est-ce que certaines sont déjà en application?
Alors, il y a une solution, mais qui couvre évidemment beaucoup de champs différents, c'est la prévention. C'est-à-dire que l'événement le plus facile à couvrir, c'est celui qui n'arrivera pas. Donc, si on arrive à le prévenir, tant que faire se peut, c'est toujours ça de gagner. Et évidemment, c'est un grand chantier pour les assureurs. Par exemple, si on reprend l'exemple du retrait gonflement d'argile, on essaye de convaincre les propriétaires des maisons exposées à ce risque de couper les arbres qui sont très proches de leur maison, parce que un arbre, c'est des racines dans le sol et c'est des racines qui vont emmagasiner de l'eau et qui donc risquent d'amplifier le phénomène de retrait gonflement des argiles. Donc, si on enlève les arbres trop près des maisons, on réduit le risque lié au retrait-gonflement. Et puis, il y a des choses très simples à faire, mais qu'on fait depuis relativement peu de temps. Par exemple, lors des derniers épisodes de grêle, les assureurs ont envoyé des millions de SMS à leurs assurés pour leur dire, il y a un orage de grêle prévu dans les heures à venir. Rentrez votre voiture au garage, rentrez-la sous un auvent, comme ça, elle ne sera pas exposée au grêlon, et ça sera toujours ça moins indemnisé, pour être très prosaïque. Voilà, donc c'est des petits gestes, mais dont l'impact financier n'est pas du tout négligeable. Les dégâts causés au parc automobile par les orages de grêle en 2022, c'était des dizaines de millions d'euros.
Mais Marc, on en a parlé en début d'épisode, l'inassurabilité en France, on y est déjà, dans un certain nombre de communes, et ça, c'est une situation dont on ne sortira pas par ces gestes de prévention, même si tout le monde s'en empare.
Oui, donc les prévisions, elles vont toutes dans le même sens. La prévention, elle suffira pas. Elle permettra évidemment de limiter la facture, entre guillemets. Mais le système, dans son ensemble, peut être remis en cause si les prévisions en matière de catastrophes naturelles se vérifient, c'est-à-dire augmentation de la fréquence et augmentation de la gravité. Donc, il faut prendre des décisions, alors peut-être au niveau gouvernemental plus qu'au niveau des compagnies d'assurance elles-mêmes, pour que le système tienne, entre guillemets encore, et pour limiter aussi la montée des risques et de l'exposition des biens aux risques.
Quand tu dis des décisions gouvernementales, ça pourrait prendre quelle forme? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à empêcher des gens d'habiter là où ils le souhaitent parce qu'ils sont exposés à un risque de catastrophe, par exemple?
Alors évidemment, c'est un débat très très délicat à mener parce que c'est une grosse responsabilité d'interdire aux gens d'habiter là où ils le veulent, tout simplement. Mais il y a beaucoup d'assureurs qui commencent à dire il y aura un problème pour les régions, les villages, les villes, et dans les villages et les villes, les maisons les plus exposées directement au risque d'inondation, notamment, c'est ce qu'on appelle la problématique du bord de rivière. C'est une maison construite très près d'un cours d'eau qui risque d'être exposée à des crues violentes et très rapides. Cette maison-là, elle est beaucoup plus difficile à assurer aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans, et elle est beaucoup plus exposée à des risques. Donc, il va falloir prendre des décisions parfois douloureuses, sans doute, dans des endroits qui ont été exposés ces dernières années à des catastrophes. C'est le cas, par exemple, à Vaison-la-Romaine, dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, où on sait que, déjà, une partie des habitants ne peuvent pas revenir là où ils habitaient. Donc, il s'agit de racheter leur maison, puis de reconstruire ailleurs, et parfois aussi de reconstruire au même endroit, mais de reconstruire différemment. C'est-à-dire que au rez-de-chaussée, on va déplacer tout le système électrique pour que le tableau électrique et les prises ne soient pas sous le niveau auquel peut monter l'eau dans une maison.
Merci Marc.
Merci Margot.
Vous pouvez retrouver tous les articles de Marc Engrand sur ce sujet sur notre site lemonde.fr. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au Monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. Merci de votre fidélité et à demain.